Bonsoir à tous et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique, produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le territoire non cédé du Nyon-Wendisio, aussi appelé Québec. Et je suis en compagnie de Mathilde Harvey-Morin. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Christelle.
Comment vas-tu?
Ça va extrêmement bien. On voit que les jours commencent à devenir plus grands et tout ça. Même s'il pleut, je vois qu'il reste encore un peu lumineux.
On a changé d'heure, ça paraît beaucoup. La pluie aussi annonce le printemps. Et puis, toute la saison culturelle qui est en effervescence aussi, ça donne l'impression que le printemps arrive, que la vie a vraiment repris. Après
exact.
L'hiver. On a une belle émission de chronique ce soir, des regards sur des œuvres qui sont en montre à Québec présentement. Veux-tu nous présenter les deux sujets de ce soir?
Ben oui, bien sûr. On va commencer avec notre chroniqueur Audrey Carreau qui revient avec nous à l'émission pour discuter de la nouvelle exposition de Nathalie Bugeaud, Métroscopie, en montre à la bande vidéo du 8 mars au 6 avril. Et on va continuer ensuite en deuxième partie avec, encore une fois, Myriam Leland qui vient nous revoir après la semaine passée. Et elle se joint à nous pour nous parler de son expérience à la performance du Stella ou les performances du samedi 8 mars au lieu dans le cadre de l'exposition laboratoire de Catherine-Josée Gervais au lieu.
Oui, Catherine-Josée Gervais est en processus de rédaction de sa thèse de doctorat sous la direction d'Hélène Doyon et elle utilise l'exposition au lieu pour inviter des performeurs, des performeureuses à venir adresser certaines questions sous forme de laboratoire ou workshop dans l'espace. Et c'est la documentation audio qu'elle fait de ce qui se passe dans l'espace qui va devenir l'objet de l'expo. Alors, elle est vraiment en recherche et son invitation permet à beaucoup de collègues de venir se questionner auprès d'elle. Et puis l'expérience d'assister au laboratoire samedi dernier a été quand même très intéressante. Je suis sûre que Myriam va avoir un regard qui va ouvrir plein de pistes de réflexion. Et puis un deuxième laboratoire de prévu ce samedi en fin de semaine le 15 mars. Donc pour ceux et celles dont on aura piqué la curiosité, ce sera possible de retourner au lieu, poursuivre l'expérience. Pour la sélection audio de ce soir, Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL, nous propose de découvrir Alabaster de Plume, artiste d'Angleterre. On écoute son nouvel album qui sortira le 25 mars, A Blade Because a Blade is Whole, un projet musical sur la dignité et le processus de guérison. Il nous dit « Une lame, parce qu'une lame est entière, elle s'est pardonnée à elle-même et parce qu'il faudra un petit morceau de notre opposé pour que nous soyons complets. Une lame a marqué ses anciennes versions sur ma main, une lame me sépare du reste de cet univers et me marque moi-même, me rend un pendant que je vis une lame, pendant que je me pardonne et que je guéris et qu'elle nous guide dans la guérison. Nous ne pouvons nous pardonner les uns aux autres qu'une fois que nous nous sommes pardonnés à nous-mêmes. » C'était la poésie d'Alabaster de Plume et on écoute « Oh my actual days ». Rebienvenue, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. On écoutait « Oh, my actual days », une piste de l'album « A Blade Because a Blade is Whole » d'Alabaster de Plume. On est en studio avec notre chroniqueur Audrey Carreau. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Christelle.
Merci de te joindre à nous.
Ben, c'est toujours un plaisir.
Alors, tu as choisi de parler de l'exposition Métroscopie qui est en montre à la bande vidéo pour une foule de raisons. Tu as tout un lien, un historique avec le travail de Nathalie Bugeaud, puis j'ai très, très hâte de t'entendre nous en parler de elle, de sa pratique, de l'exposition. Mais je te laisse aller, tu choisis comment tu nous amènes avec toi.
Oui, certainement. Ben, j'aimerais tout de suite aviser les auditeurs et auditrices que, j'ai un gros coup de foudre, coup de cœur depuis de nombreuses années sur le travail de cet artiste. Alors, je ne suis pas très neutre ce moment, mais quand même, j'avais vraiment envie de vous parler de cet artiste quand j'ai vu qu'elle allait être dans la programmation de la bande vidéo parce que c'est une artiste extrêmement talentueuse pour moi et comme, j'irais un couteau suisse qui est multidisciplinaire, multi-instrumentiste, donc qui fait toutes sortes de choses depuis 40 ans maintenant. Donc, c'est ce que je me suis rendu compte ces dernières journées, qu'effectivement, elle a une longue feuille de route derrière elle, mais une feuille de route qui est extrêmement cohérente aussi. Et j'ai découvert pourquoi j'avais un si grand amour de son travail. Alors, je me lance un petit peu en vous en parlant, mais aussi en vous l'introduisant pour vous dire, donc, que ça fait... elle a plusieurs liens aussi avec Québec. également.
Parce qu'elle n'est pas de Québec.
Non, elle est originaire de la Gaspésie. Elle est à Montréal maintenant, mais elle a plusieurs liens parce qu'entre autres, c'est une des fondatrices, là, des artistes fondatrices de l'Œil de Poisson, hein, ce centre d'artistes bien connu depuis 40 ans maintenant à Québec. Et aussi, elle a fait son baccalauréat ici à l'Université Laval en 1992 et elle avait même remporté le prix René Richard. Donc, quelqu'un qui était impliqué à une certaine époque ici à Québec et qui fait des retours assez fréquents de temps à autre. Là, elle vient exposer, elle a des invitations à venir exposer ici. Alors, c'est le fun parce que moi, je l'avais rencontrée il y a une douzaine d'années de cela lorsqu'elle avait fait son passage à l'Œil de Poisson lorsque j'y travaillais. Alors, voilà, donc c'est une artiste que je suis un petit peu et que j'affectionne, mais une artiste, dans le fond, qui a une pratique multidisciplinaire, comme je le disais, qui a touché depuis les années 80, donc à la sculpture, à la photo, au travail aussi avec le textile, la vidéo, bref, un petit peu de tout aussi, mais on la connaît aujourd'hui davantage pour tout son travail avec la vidéo. Donc, où elle va finalement faire, dans le fond, jongler la technologie avec l'artisanat.
Oui. Donc, il y a toute une facture à son travail qui permet de se situer aussi. Parce que quand tu me dis qu'elle a 40 ans de carrière, j'ai tout de suite pu comprendre, en fait, comment inscrire son projet. C'est-à-dire que sa relation avec la technologie, ce n'est pas du côté l'intelligence artificielle et des avancées là, très futuristes. Ce n'est pas du tout ça qu'elle nous propose.
Au contraire, on est vraiment dans le bricolage avec cet artiste. Et c'est pourquoi que j'aime particulièrement et j'affectionne parce que il y a quelque chose de la patente derrière tout le côté technologique, c'est ça, tu sais, elle remet de l'avant finalement tout le travail artisanal lié aux ouvrages de dames qu'on disait à une certaine époque, si on recule quelques décennies en arrière de nous. Donc, elle est de cette génération des Claudie Gagnon, des Paris Martin, donc toutes ces faiseuses avec presque rien, finalement, avec toutes sortes de matériaux qui s'amusent littéralement. Mais sa vidéo, pour peut-être retourner aussi à ce qu'on présente aussi et qui fait le lien avec tout son parcours, c'est le rapport aussi au quotidien, hein, ces petits instants de banalité. Et Métroscopie nous transporte justement dans ce moment le plus banal qu'est le métro de Montréal, au final. Parce que lorsqu'on entre à la bande vidéo, il y a trois écrans et on se rend compte finalement que ce sont des vues du métro de Montréal à bord d'un wagon. On passe finalement d'une station à l'autre, mais tout ça est brillamment, savamment orchestré parce que, je vous explique, je vous mets en contact un peu comment ce projet-là s'est fait. Elle a travaillé là-dessus pendant 2 ans. Pendant la pandémie, finalement, et tout l'anonymat, si on peut dire, de cette période-là avec les masques et tout, lui a permis de faire ce projet-là de façon tout à fait clandestine. Et ça, j'ai bien apprécié. Un petit côté pirate que j'aime bien dans ça, parce qu'elle me disait que c'était très compliqué tourner dans le métro de Montréal. Ça prend des autorisations et tout. Puis ça vient un peu miner la liberté aussi de création, parce que il faut engager des figurants. Justement, le métro est sensible à protéger finalement le public aussi. Mais bon, tout ça a été fait dans une période où finalement on ne peut reconnaître personne avec les visages masqués ou ces choses-là. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, on embarque dans le métro de Montréal. Elle a passé à travers tout ça. Et le projet original comportait 11 écrans. Alors que là, on en a 3 et c'est une variation, donc une nouvelle mouture du travail qu'elle avait fait avec ses vidéos prises dans le métro. Donc, la vidéo aussi, elle est construite à partir de multiples strates d'images, finalement, de vidéos qu'elle a prises là-dedans. C'est comme une courte pointe, comme un tissage, finalement, vidéo, parce que c'est une construction aussi qui rappelle le montage sonore. Et me disait-elle, et quand on y porte attention, le son est extrêmement important dans tout son travail, aussi vidéographique, et c'est beaucoup comme ça qu'elle le construit aussi visuellement. Tu sais, quand on fait du montage audio, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, on travaille souvent par de multiples pistes. des couches pour créer au final une ambiance sonore. Bien, c'est le même principe aussi avec cette vidéo-là. Donc, elle part de ça, donc des multiples strates de vidéos qu'elle va découper de façon verticale et aussi horizontale. Et chaque petit carreau qu'on voit défiler, parce que oui, la vidéo finalement, elle est déconstruite et il y a comme une espèce de mouvement de vague.
Oui, mais qui rappelle le bercement du métro lui-même.
Exact.
On se fait bercer par le métro. Bon, moi, j'ai une certaine nostalgie des années que j'ai vécues à Montréal, de cette ambiance-là qui est tellement singulière. C'est-à-dire que le métro a son univers sonore, son odeur et son mouvement de bercement, puis son trafic qui rend le tout très anonyme, apaisant.
Mm-hmm. Tout à fait. On est dans un état réflexif aussi, oui. Méditatif. Donc c'est ça. Fait que, tu sais, c'est finalement juste pour terminer, l'aspect technique derrière tout ça, pour que vous compreniez la complexité, puis que finalement, c'est une technique qu'elle a elle-même développée aussi au bout de plusieurs expérimentations et d'essais-erreurs. Mais c'est qu'au final, chaque carreau, il y a un décalage de 10 secondes entre chacun. Donc, elle a fallu qu'elle travaille à arrimer aussi, parce que finalement, chaque écran nous présente une séquence vidéo, une station de métro. Et elle dit, comme elle me l'expliquait, ben à chaque métro, on n'arrête pas le même nombre de temps, à chaque ligne non plus. Donc, le rythme est différent. Elle a dû resynchroniser tout ça en rallongeant, en décalant finalement chaque bande, finalement, horizontale et verticale, ce qui crée cet effet de mouvement-là, de vague, un peu décalé quand on regarde des gens passer dans l'image. Au final, ben, ils sont pas en ligne droite, ils sont comme en diagonale, parce que finalement, ça passe d'un carreau, d'une verticale à l'autre. Donc, il y a ça, puis c'est ce qui fait que quand même, il y a un arrêt du métro à la station, ben, si la personne bouge, eh bien, on voit un léger décalage aussi qui se produit. Alors, c'est super intéressant sur le plan technique et complexe.
Et comme tu dis, très manuel comme intervention. Et ça, on s'en doute pas. Alors, on sent qu'il y a un grain, qu'il y a un geste, qu'il y a des décisions qui sont un peu décalées par rapport à l'univers de la technologie, de la grande technologie. On le sent que ça n'a pas été un montage qui a été fait par intelligence artificielle ou par logiciel qui permettent avec un montage de venir réassembler une image. Mais je n'avais pas du tout saisi l'ampleur de l'intervention. C'est-à-dire que quand tu dis courte pointe, c'est pas juste l'effet visuel, c'est vraiment tout le savoir-faire du découpage et du réassemblage pour créer un motif qui donne un mouvement, des rappels. Wow! Alors, elle a fait un travail d'orfèvre, puis si le travail initial a 11 écrans ou 11 vidéos projetées, c'est qu'elle a énormément de matériel.
Tout à fait. Comme je disais, c'est 2 ans de tournage aussi, d'arriver avec les mêmes, si on peut dire, les mêmes cadrages et tout. Puis même à certains moments, pour ceux qui y resteront, la vidéo, moi, je vous invite vraiment à la voir d'un bout à l'autre. C'est pas... Je me souviens plus la durée, mais je l'ai vue, moi, d'un bout à l'autre. Et puis, c'est pas très, très long, mais en même temps, c'est fascinant parce qu'aussi, ce qu'elle me disait, c'est qu'à un moment donné, aussi, on voit un tournage, finalement, la station à travers la vitre ou le reflet de la vitre aussi. Puis c'est un peu dans cet esprit-là qu'on est quand on est dans le métro. Des fois, on veut regarder à travers la vitre, mais on a soit quelqu'un qui est placé devant nous, qui nous regarde ou autre. Donc, ça nous amène à porter un regard différent sur nous, comment on regarde le monde aussi. Tout le rapport, on parlait aussi du côté méditatif, des éléments qu'on voit pas, le tunnel aussi qui fait partie de ça, mais qui est rendu de façon tout abstraite dans la vidéo parce que on est en mouvement, on est en déplacement entre les stations, et ce qui nous le rappelle au final, ce sont ces lignes, qu'elles soient vertes ou rouges, mais qui sont finalement les tuyaux ou les fils qu'on voit entre les stations, le côté aussi béton, là, la couleur du béton qui s'immisce à travers tout ça. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, d'un autre aspect aussi, comme je lui disais, avec tout le rapport à l'artisanat qui est là, mais il y a aussi plein de références à l'histoire de l'art, à l'art abstrait, à la peinture des plasticiens, parce que Nathalie, m'expliquait-elle, a dit « Je viens d'une formation à l'Université Laval où on était très formaliste. Ça fait partie de mon bagage. » Et puis, c'est ça aussi parce que finalement, l'image, une fois qu'elle se décompose pour nous amener d'une station à l'autre, ben on a l'impression vraiment de retrouver une peinture formaliste, que ce soit un Molinari, par exemple, les effets sériels, les effets, les jeux de lignes, de carreaux, de pixels aussi, qu'on associe à la fois à la technologie et à l'artisanat, les effets optiques comme le op art aussi. Fait tu sais, il y a des références sous-jacentes à toutes sortes de mouvements artistiques aussi dans son travail qui sont hors du champ aussi technologique, la vidéo. Donc, on passe aussi sous ces multiples couches de références à l'art, qu'il soit avec un grand A ou à l'artisanat ou à la patente au final aussi.
Fait qu'elle nous amène une vidéo qu'on pourrait considérer comme un tableau, tellement la composition et puis le travail justement sur la couleur, le rapport des éléments les uns aux autres, puis la division, hein, le quadrillé en fait de la proposition est lui-même une proposition qui tient la route.
Tout à fait, oui. Puis tu sais, comme j'ai le motif de damier qu'on a vu reprendre à plusieurs reprises, je pense entre autres à Françoise Sullivan, à des peintures abstraites qu'elle a faites dans les années, si ma mémoire est bonne, comme 80, 90 aussi. Il y a de ça, mais en même temps, je parle de tissage, on pense aussi au point de croix qui se fait. Ma tante faisait ça, ces fameux points de croix, ou tu sais, ou à la peinture à numéro d'une mm-hmm. certaine façon, mais plus de forme abstraite en même temps. Puis c'est le fun parce que quand on se met à regarder son site web aussi pour regarder un petit peu, donner une perspective sur son travail, ce travail-là, on voit que ça fait longtemps qu'elle le développe et qu'elle en varie les formes aussi, parce qu'il y a au début des années 2000, une œuvre qui s'appelle « Le train où vont les choses », où on voit justement le début de cette fascination cinétique, ce jeu de parallaxe aussi, qui commençait à être là, qui vient donner texture, son aussi. Donc, bref, ça fait longtemps qu'elle réfléchit à ça, mais qu'elle évolue de façon extrêmement cohérente, sans jamais se répéter non plus aussi. Et c'est ça aussi que j'aime dans la qualité de ces propositions-là. Mmh. Puis le son est traité exactement de la même façon, comme le son qu'on retrouve dans Métroscopie. Mais me disait-elle, ce n'est pas un son qui est fait en post-production. C'est vraiment le son qu'elle a pris au moment dans le métro, mais qui est décomposé exactement de la même façon que l'image, ce qui crée cette espèce d'univers sonore extrêmement étrange, abstrait en même temps aussi. Donc, vraiment aussi fascinant comment elle travaille.
Tout le processus d'utiliser l'espèce de parenthèse qu'a été la pandémie pour plusieurs d'entre nous, pour se plonger dans un rapport processuel de prise, de captation, avec un protocole très strict, là, certaines lignes, j'imagine, à certains moments de la journée, profiter de l'anonymat puis du peu d'employés qui faisaient de la surveillance pendant ces temps-là. Tout était en personnel essentiel, donc tout, même le métro avait moins d'employés. C'est vraiment une démarche artistique. On sent qu'il y a un abandon, en fait, à la démarche là, pour donner 2 ans à un projet de travailler pendant avec autant de soins en production, en post-production, et d'avoir, en fait, cet écrin-là qui nous permet de constater le bijou qui a été travaillé avec dans la durée. En tout cas, moi, ça m'impressionne de voir ce que le temps long peut permettre aussi de faire comme proposition.
Oui, puis à l'image aussi des plasticiens, pensons-y comment Molinari a retravaillé constamment ces fameuses lignes, ces tableaux sériels. Ben elle aussi, elle vient reprendre cette matière-là, mais la représenter sous une autre forme, mais de manière originale aussi, tout en réinventant un petit peu à chaque fois, ou en poussant plus loin finalement la démarche initiale qu'elle avait faite. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Ce qu'elle me disait aussi, c'est que pour elle, on pourrait se demander, ouais, ben pourquoi le métro? Elle me disait entre autres que le métro, c'est vraiment un lieu important pour elle, parce qu'elle dit, c'est entre autres là où j'ai eu mon premier contact avec l'art. Je regardais les œuvres dans les différentes stations, puis quand on pour ceux qui y ont déjà été ou si vous y irez les prochaines fois, portez attention aussi à tout le côté formaliste du métro de Montréal. Il faut se rappeler
l'époque,
c'est ça, le côté à la fois formaliste, brutaliste de l'architecture, aussi tout le rapport à la couleur, au mouvement et tout. Donc il y a de ça qu'on retrouve encore, comme si elle s'inscrit dans la suite aussi de ces propositions là mais en étant tout à fait en corrélation avec son époque, avec le travail. Puis je pense beaucoup aussi aux jeux vidéo. Pour les amateurs de jeux vidéo, vous allez triper parce que pour moi, j'y vois, tu sais, je ne suis pas une joueuse, une gameuse, mais pour avoir vu beaucoup de gens, ça m'évoque Megaman dans les années 90, justement, toute cette esthétique-là, très pixelisée aussi, mais qui est travaillée sous une autre approche. Et je me permets de faire un parallèle aussi parce que je suis une amoureuse du vidéoclip. Et je sais que Nathalie en a fait aussi. Son conjoint est musicien également, un musicien très connu avec qui elle a collaboré de nombreuses reprises. Mais moi, quand je regardais cette métroscopie, j'ai pensé entre autres à un autre artiste de sa génération, mais qui est de l'autre côté de l'Atlantique, à Michel Gondry.
Ah, ben oui.
Vraiment.
Mais tant que tu le dis, on le sent tout de suite, le travail sur le pixel, la dématérialisation à l'écran, puis le travail avec autant d'importance à la bande-son qu'à l'image.
Exact. Puis de partir, finalement, du son pour générer une image, générer un rythme, un mouvement. Pour moi, tous les deux sont des artisans, finalement, de l'image. Tu sais, je pense entre autres au White Stripes, Fell in Love with a Girl. Vous irez voir ça sur YouTube. C'est exactement ça. C'est un clip qui est fait à partir de blocs Lego. Et on est dans un mouvement très, très saccadé, très formaliste, comme on le retrouve aussi là-dedans. Mais il y a donc toute cette approche bricolée, inventive, le rapport au protocole, comme tu l'as très bien souligné. Le rythme qui sert de structure finalement à l'œuvre au final selon les éléments sonores qui sont dans la production et tout ce rapport à la poésie, à la magie finalement, il y a de ça dans le travail de ces deux artistes pour moi aussi. Donc je trouve ça extrêmement pertinent à cette ère où l'IA prend de plus en plus de place, où les développements technologiques vont à un rythme effréné, où là, il y a ce plaisir au final de regarder ce travail d'artisan technologique qui rappelle aussi à la fois tout le travail de l'humain derrière, toute sa complexité et sa beauté de la créativité humaine au final.
Ouais, puis la pertinence de l'approche poétique dans tout ça, tu sais, finalement, ce qui nous séduit, c'est ce qu'elle nous offre comme lecture du monde, comme rapport au monde, puis cet enchantement-là qu'elle réussit à faire avec trois bouts de ficelle, un peu comme tu le disais, là, avec des choses qui sont de l'ordre du banal et du quotidien. Un grand savoir-faire. Ben, en tout cas, Audrey, ton préjugé favorable, tu nous amènes avec toi, on l'adopte.
Et oui, puis il y aurait encore plein d'autres aspects qui sont intéressant, dont entre autres pour moi, tout le rapport féministe aussi de son travail qui est là, qui est sous-jacent tout au long de son parcours dans l'idée de revaloriser finalement ce travail artisanal-là, ses ouvrages de dames, comme je disais en introduction. Elle l'a fait à un moment où c'était pas à la mode comme aujourd'hui, là, donc elle l'a fait tout au long d'une carrière. Bref, je vous invite très, très honnêtement et sincèrement, allez visiter son site web nathaliebugeaud.com. Vous avez aussi tout son Vimeo où vous pourrez voir son merveilleux travail artistique. Bref, allez courir à la bande vidéo. Vous avez jusqu'au 6 avril pour voir ça. Puis sinon, amusez-vous à découvrir son travail sur son site web.
Merci Audrey. Merci à la BV d'avoir eu l'intelligence et de la sensibilité de programmer Nathalie dans leur programmation ce printemps. On se quitte en pause musicale, publicitaire et musicale. Et au retour de tout ça, on retrouve Myriam Leland qui va nous parler de son regard sur le laboratoire performatif de Catherine José Gervais. Rebienvenue, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique. Mon nom est Christelle Tremblay, je suis en studio à CKRL avec Myriam Leland. Bonsoir Myriam.
Bonsoir Christelle.
Alors tu t'es joint à nous parce que la tentation était trop grande la semaine dernière alors que tu es venue m'aider à l'animation.
Ben oui,
artistes. Dans l'agenda, on a parlé de, du laboratoire de création que propose Catherine-Josée-Gervais au lieu dans le cadre de son exposition. As-tu le titre de l'exposition?
Absolument, c'est « À la banalité du geste, nous tenterons de nous soustraire », qui, comme tu l'as dit, est une œuvre laboratoire.
Oui. Hein,
du 12 au 23 mars.
Exact.
Et à travers ça, les deux points saillants, disons, là, du projet, ce sont des événements de performance collective. Donc, il y en a eu une samedi dernier, qui était le 8 mars, et samedi prochain, le 15 mars. Donc, samedi dernier, il y avait Sébastien Goyette-Cournoyer, Mathieu Lacroix, Rodolphe Yves Lapointe, Marc-Claude Gendron et Victoria Stanton.
Tous des performeurs, performeuses de majoritairement de basés à Montréal,
oui.
Sauf Rodolphe peut-être, et puis qui ont quand même... pas mal en dessous de leur ceinture. Là.
Ils sont solides.
Ils en ont derrière la cravate. C'est des gens qui tournent et qui sont très engagés dans leur propre pratique.
Oui, oui.
C'est des gens que Catherine a côtoyé ou côtoie,
oui,
dans sa pratique à Montréal.
Exact. Puis, tu sais, même moi qui... Bon, c'est sûr que j'en connais un petit peu plus sur la performance artistique que, disons, mes parents, on va dire. Mais je suis quand même pas... je suis pas une experte en la matière. Je vais une fois de temps en temps à des événements, puis... Même moi, j'ai entendu parler de ces gens-là. T'sais.
Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller assister à ce laboratoire-là?
Ce qui m'a donné le goût, là, c'est bien, bien personnel. Puis la raison pour laquelle j'ai aimé ça, puis tout ce que je vais dire, c'est très, très personnel. Absolument pas technique. J'ai pas vraiment le langage de la perf, mais tu pourras venir pallier à ces manques-là. En fait, ce qui m'a donné le goût d'y aller, c'est Victoria Stanton, c'est Marie-Claude Gendron.
C'est des billets favorables pour des artistes que tu adores. Oh,
absolument, des
Allons-y.
Artistes, mais surtout des personnes.
Yes.
Je le dis là, comme ça, je les vante. Là. En fait, Marie-Claude Gendron, je travaille avec elle en ce moment sur un de ses projets, dont je ne parlerai pas. Mais je ne l'avais jamais rencontrée en personne. On avait fait des Zooms, on s'était parlé, on s'était échangé énormément de courriels. Et juste ce contact-là, c'est une personne que j'adore. J'ai beaucoup aimé les œuvres d'elle que j'ai vues aussi. Le projet sur lequel on travaille est juste extraordinaire. Souhaitons qu'il voit le jour. Puis Victoria Stanton, j'ai eu la chance de travailler avec elle à l'automne 2023. Je l'ai rencontrée 2-3 fois en personne, Victoria, brièvement, mais intensément, parce que c'est Victoria. Puis ça m'a vraiment marquée, puis je trouvais ça, j'y ai repensé après. En fait, quand on en a parlé pendant l'agenda de la semaine dernière, Victoria, Marie-Claude, c'est les noms qui me sont restés. Puis j'avoue que j'avais même pas regardé le nom de l'artiste, tu sais, finalement, de Catherine Josée, qui est comme l'artiste qui chapeaute tout ça.
Qui propose le cadre, en fait, et qui invite les autres à venir la rejoindre.
Exactement. Puis, en fait, Catherine Josée, elle fait partie d'un collectif qui s'appelle Les Assises Debout, avec qui j'ai aussi eu le bonheur de travailler aussi à l'automne 2023. On s'était donné un petit défi. On trouvait qu'on n'avait pas assez de job à Folliculture, fait qu'on s'était booké comme 4 événements performatifs en un mois. Et ça en faisait partie. Puis les Assises Debout m'ont marqué autant que Victoria. Là. C'est un collectif de femmes qui viennent de tous horizons, là, danse, théâtre, écriture, tout, qui ont des pratiques individuelles, personnelles aussi, mais qui se regroupent ensemble pour méditer. Puis elles avaient répondu à un appel de dossier pour proposer une performance, l'escalier intérieur. Donc, elles étaient tout en lenteur dans des escaliers extérieurs de la ville de Québec, très relationnelles. Et donc, Catherine Josée, ça m'a pas surpris, là, qu'est-ce que j'ai vu puis qu'est-ce que j'ai entendu samedi. Puis, en fait, comme Catherine Josée était là, mais il y a une autre assise qui était dans la salle à qui j'ai pas pu parler, mais que j'ai reconnue aussi. Fait que pour moi, c'était vraiment un moment spécial parce que, bon, tombons dans le plus personnel, justement, l'automne 2023, c'était une période de... J'utiliserais le mot brutal de ma vie. Très difficile, puis c'est toutes des femmes qui ont marqué mon chemin en les côtoyant pendant 3 heures, genre. Dans toute ma vie, je les ai côtoyées 3 heures, mais elles ont tellement marqué mon chemin, puis elles ont pavé vraiment le chemin de ma guérison, disons-le. Puis ben j'étais avec toi en plus, Christelle, avec une autre femme extraordinaire. Puis là, quand je suis sortie de là, je me disais, waouh, quelle belle expérience. Puis là, j'ai fait, ah ben coudon, on est le 8 mars. Journée internationale du droit de la femme, quel adon! Donc, c'était bien programmé. Fait que là, mettons qu'on sort un petit peu du de mon personnel. Là. Vous savez maintenant que j'ai adoré ça. Comme tu l'as dit, Christelle, c'est Catherine Josée qui a invité ces artistes-là, les artistes qui seront là samedi prochain aussi. Puis c'est un projet, en fait, qui s'inscrit au cœur de sa thèse création, qui est sous la direction d'Hélène Doyon. Et ce qui est écrit, en fait, là, pour nous présenter le projet, c'est qu'à l'image d'un laboratoire et ou d'une émission de télé-réalité, c'est vrai que ça avait un petit peu ce vibe-là. Le projet processuel tente de présenter les interactions entre les artistes selon la perspective de l'art en train de se faire. C'était littéralement ça, l'art en train de se faire. Donc, pendant les activités, les artistes avaient carte blanche, ben ont carte blanche, parce qu'il y en aura d'autres aussi. Les instructions qui leur étaient données étaient très minimalistes. C'était « ne préparez rien, ne faites rien de spectaculaire, seule une présence incarnée est requise ». C'est ce qui leur a été dit. Je pense qu'on leur avait mentionné quelque chose qui évoque le geste quotidien. C'est pas mal ça. C'est ce que Catherine José nous a expliqué aussi là, au tout début.
Oui, c'était très transparent, c'est-à-dire oui. que nous, comme spectateurs, dans l'espace de performance, au lieu, Catherine a été très, très didactique. Elle nous a dit c'était quoi son rôle, qui elle avait invité, elle les a tous nommés, elle nous a donné les règles du jeu.
Exact, mais tout en étant très flexible et transparente et en étant honnête aussi, en disant « moi non plus, je ne sais pas ce que je vais faire ». Elle avait un micro, on l'entendait, puis c'était aussi drôle parce que quand elle sortait de la pièce, le micro était diffusé à travers des speakers, donc on l'entendait, mais on la voyait pas pendant qu'elle cherchait genre des clés ou un balai, des choses comme ça. Donc oui, elle nous l'a dit, moi non plus, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, moi non plus, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas l'habitude d'animer, mais bon, je suis là pour observer, puis c'était un peu... Oui, c'était à la fois l'événement qu'elle animait, mais c'était aussi beaucoup pour enregistrer, finalement. C'était pour garder la trace de ça. Il y avait des vidéos qui étaient prises au début, mais sinon, c'était de la photographie et l'enregistrement de sa voix. Puis on en profitait aussi. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir que, ben finalement... elle aussi, elle était prise de court par les propositions des personnes, puis les artistes eux-mêmes étaient pris de court par les propositions des autres artistes ou même par la proposition de Catherine José. Il y a Mathieu Lacroix, par exemple, qui a été très, très transparent aussi en disant « je sais pas quoi faire, ça me rend anxieux, je sais pas, je me sens observée ». J'ai trouvé ça intéressant aussi de voir qui jasait entre eux, les artistes, et Victoria a dit « ah, j'étais plus nerveuse pour la vidéo ». Mais moins pour ça, Mathieu a dit « ah, ben moi, c'est l'inverse ». Donc, juste de voir...
Mais vraiment typique de la discipline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quatrième mur, il n'y a pas de faux-semblant.
Non, c'est ça. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que bien que je ne sois pas moi-même dans la performance, que j'en sois pas une experte, j'entends des personnes autour de moi parler de ces fameux workshops de performance.
Pourquoi les workshops de performance sont fameux? C'est que la performance ne s'enseigne pas.
C'est ça.
Et donc, la seule façon de faire de la perf, c'est d'en faire. Et exact. La première porte qui s'ouvre à nous avant de recevoir une invitation quelconque, ben, c'est bien sûr d'aller s'inscrire à un workshop et d'avoir l'occasion de se frotter à des oui. suggestions d'exercices, de pratiques.
Puis un feedback live aussi, la performance, c'est d'être là, finalement. C'est juste d'être incarné, comme ce qui était proposé par Catherine José. Donc, l'opportunité, comme tu dis, d'être là, d'avoir du feedback, puis d'être là avec d'autres personnes, c'est des choses dont j'entends parler. Des fois, il y a des diffusions post-workshop, mais dans le workshop, on me décrit. Parfois, j'ai des amis qui me le décrivent, puis je me dis, mon Dieu, que j'aimerais ça être une mouche sur le mur pour voir ça. Puis là, c'était ça. J'avais l'impression d'être la mouche sur le mur pendant un workshop de performance avec... l'angoisse de « qu'est-ce que je fais ici? » On le voyait, là.
Le chaos.
Le chaos. Mais aussi la cohésion qui s'est comme formée à un moment donné. Les artistes ont comme pris leur place naturellement. Ils ont très doucement collaboré, communiqué entre eux à travers certains gestes.
Et avec le public
aussi.
Parce qu'on se sentait quand même des participants, ce qui est aussi un autre élément de l'espace performatif, c'est que si tu es présent, tu en fais partie.
Bien, c'est ça, c'est exactement ça. Puis la raison pour laquelle j'ai commencé aussi avec un aspect très personnel, c'est que toute toutes les personnes que j'ai nommées, Marie-Claude, les Assises debout, Victoria Stanton, ce sont toutes des personnes de qui j'admire la pratique parce que c'est quelque chose qui vient vraiment chercher mes intérêts parce qu'elles font beaucoup dans le relationnel. Mm-hmm. Donc, soit de créer des moments où le relationnel est présent, soit de pousser à l'observer. Puis finalement, Catherine Josée, c'est ça qu'elle a fait. Elle a créé un moment où il y aurait du relationnel et elle le commentait live. Puis, on pouvait en faire partie de ça, justement, Victoria. On ne s'était pas parlé, c'est la semaine dernière que j'ai appris qu'elle serait là. J'étais tellement contente de la revoir. Puis, au début, bon, c'était de la perf, je ne vais pas aller me mettre dans son set-off de perf. Donc, je restais un peu collée au mur. Puis, finalement, c'est un peu elle qui m'a interpellée. Elle s'est installée sur une serviette de plage en microfibre avec un jeu de mémoire, avec des drôles d'images. Puis, elle s'est mise à me parler. Puis, finalement, moi, je suis allée m'installer avec elle, puis je pense que pendant au moins 45 minutes, j'ai joué à un jeu de mémoire avec Victoria Stanton, Laurence Gravel, puis une bière que Christelle, tu m'as payée. D'ailleurs, je t'en dois une. Ça pouvait juste être une belle journée. Ça pouvait juste être une belle journée, mais au niveau artistique, au niveau humain, c'était merveilleux, mais au niveau artistique, je trouvais ça tellement intéressant de voir le relationnel, et même... C'était confrontante, la pratique, pour ceux qui connaissent la pratique de Rodolphe Yves Lapointe, c'est une pratique qui est confrontante.
Oui. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Néanmoins, on était tous surpris.
Mais c'est que moi, je ne le connaissais pas avant, cette journée-là. Donc, je n'avais pas d'attente. Moi, je m'en venais voir des femmes que j'admire, des femmes qui sont tellement chaleureuses, douces et tout ça. Puis là, il y a Rodolphe qui est là, qui tête des cailloux, qui balaie avec son kéfier, qui fait monter des nuages de poussière. Puis qu'à un moment donné, dans notre petit setup idyllique, à trois à jouer au jeu de mémoire, ben là, il nous fait signe avec ses bouchons dans les oreilles de se tasser. Puis c'est sûr que j'ai été confrontée au début, mais... J'ai trouvé ça quand même intéressant parce que ça vient jouer dans le relationnel, finalement. La confrontation, ça fait partie du relationnel aussi. Donc, ça amenait quand même quelque chose de riche. C'est sûr qu'au début, mon premier réflexe, c'était « Ben là, c'est pas jouer en équipe, ça.
» Oui, encore un gars qui prend de la place, puis qui fait du bruit, puis qui dérange tout le monde. Je sais, parce que j'ai été une petite souris qui a entendu des témoignages de la part des artistes le surlendemain. Et je sais que eux, leur soirée a été occupée jusqu'aux petites heures du matin à réfléchir à l'expérience. Wow. Parce que, notamment, Catherine José-Gervais a disposé dans l'espace un cubicule, mm-hmm. plus style confessionnal de télé-réalité.
Auquel le public n'avait pas accès. Mais on entendait ce que les gens disaient dedans.
Aucun secret qui se passe dans ce confessionnal-là. Néanmoins, le confessionnal, en fait, posait des questions aux artistes. Et ce que j'ai entendu, c'est que les artistes avaient revendiqué par après la performance, un espace pour discuter de ces questions-là qui méritent de s'y poser puis de se questionner beaucoup plus longtemps que pendant et dans un espace performatif où on n'a pas de recul ni de temps. Et une des questions qui leur est venue et sur laquelle ils se sont penchés, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà d'un gars qui fait du bruit puis qui prend toute la place? Ben, est-ce que c'est juste ça? Notre relation à ça, est-ce que c'est juste ça?
Ouais.
Ou est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que ça, c'est un aspect de notre relationnel qui mérite d'être creusé, abordé.
C'est
fait
ça.
Que je sais que ça a occupé beaucoup des discussions pendant la soirée.
Je sais pas, peut-être que c'est une interprétation. Peut-être que c'est n'importe quoi, mais ça m'a pas pris beaucoup, ça a pas été un gros stretch d'interprétation d'y voir quelque chose à propos de la Palestine. Tu sais, de manger des cailloux, la poussière partout, le kéfier, je veux dire, c'était évident. Mais aussi le fait de, en bon français, soigner des roches dans son kéfier puis les lancer au bout de la pièce, je veux dire, c'est l'arme. La seule arme disponible, il y a pas de nourriture et tout ça. Donc, c'était pas une mauvaise performance. De toute façon, je serais qui pour dire que c'est une mauvaise performance? C'était pertinent dans l'actualité. Puis là, je me disais, mais c'est pas la place. C'était ça ma réflexion. Puis je me disais, la consigne que Catherine José a partagée, c'était, tu sais, par rapport au geste du quotidien, qu'est-ce qu'il y a de quotidien là-dedans? Puis là, je me disais, ah ben, c'est le quotidien de certaines personnes, en fait. Puis c'est ça, au niveau du relationnel, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à regarder là-dedans, de passer par-dessus l'inconfort, finalement, puis... C'est aussi ça, la performance, là, quand on assiste à un événement de performance. Moi, c'est ce que j'adore, là. Souvent, je vais passer plus de temps à regarder le public qu'à regarder l'artiste, parce que c'est ça qui est intéressant, de voir comment les gens gère l'inconfort d'y aller avec une façade intellectuelle puis de passer des commentaires pour essayer d'avoir l'air de comprendre qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a personne qui comprend qu'est-ce qui se passe parce que c'est de la perf jusqu'aux personnes qui connaissent pas du tout la perf et qui se permettent de faire qu'est-ce que c'est ça
qui s'en vont, prennent de la distance, qui interviennent, qui s'en mêlent.
Tout, c'est ça qui est intéressant. Je reviens encore avec ce mot-là que j'ai dû dire 20 fois dans les dernières 10 minutes, mais c'est le relationnel qui est intéressant dans la performance. Puis on le voit bien avec un événement comme ça. Puis le 15, il y aura, je crois que je ne les ai pas nommés, les artistes qu'il y aura
non,
le 15.
Mais on en a des locales, nos stars locales. Laurence
ben d'ailleurs,
Gravel,
Laurence Gravel que j'ai nommé.
Najwa
Benani, Steve Giasson, Danny Gaudreau et Allegria Gobeil. Allegria Gobeil aussi, j'ai pu travailler brièvement avec elle. Très hâte de voir.
Oui, oui.
Laurence, j'adore sa pratique.
Oui.
Bon,
Steve Giasson, puis
aussi
Danny Gaudreau, super performant.
Toutes des excellents performants. Puis je l'ai nommé à l'agenda de la semaine dernière, mais je le renomme encore. En fait, c'est vraiment Catherine José qui a pris la décision de prendre son propre cachet pour le redistribuer à ces artistes-là. Je trouve ça très, très important à nommer. Puis, encore une fois, juste bravo à tous ces artistes-là de se jeter là-dedans, d'avoir l'audace et le courage d'aller se pointer au lieu pendant 3 heures sans trop savoir qu'est-ce que tu vas faire avec un public que tu sais pas trop qui va être là. Puis finalement, ça a juste été une belle soirée.
Oui, oui, un
tout
clin
simplement.
D'œil, un peu de beaucoup de rigolade. On était excités, c'était rigolo.
C'est
puis
ça.
Puis la manée, on était tannés, on est parti.
Exact. Qu'on connaisse la perf ou pas, il y a toujours de quoi y trouver tant qu'on a un peu l'esprit ouvert.
Bon, ben moi, j'y serai samedi. Je serais bien heureuse de vous y trouver. Myriam, je te remercie d'avoir partagé ton retour personnel et aussi ton regard judicieux sur ce qui se passe quand on met des artistes dans un laboratoire comme ça.
On aime ça les regarder.
Enfin, une courte pause musicale. On écoute Form a V d'Alabaster de Plume et au retour, on présente l'agenda de la semaine. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. C'est le moment de l'agenda de la semaine où on vous présente quelques activités culturelles qui auront lieu à Québec en fin de semaine. On commence ce jeudi 13 mars dès 18h. À l'Est de vos empires, nous invite à aller rejoindre à la Charpente des Fauves pour le lancement de Linéament. Depuis quelques mois déjà, la Charpente des Fauves accueille les artistes du Linéament, un projet de résidence exploratoire en collaboration avec Le Pieu, qui avait pour but de créer une œuvre multidisciplinaire collaborative. Lors de cette soirée festive, vous pourrez prendre un verre tout en discutant avec les artistes et visionner dès 19h dans le hall d'entrée la projection du court-métrage de Sandra Tomella. Ce sera également l'occasion de nous procurer le livre Linéament dont le premier tirage est limité à 50 exemplaires. Co-dirigé par Antoine Beauchamp et Eve Nadeau, le livre d'artiste Linéament est né de la participation de 5 artistes de la relève, Rosalie Bocage, Myriam Lenfesti, Gabrielle Morin, Laetitia Rivet et Sandra Tomella. Encore jeudi le 13 mars, mais cette fois un peu plus tard, au cinéma Beaumont, à 20h30, on présente une rétrospective des 4 plus grandes œuvres de l'artiste Scawanetti, qui explore l'histoire, le futur et le changement de son point de vue en tant que femme Kanyankaga, Mohawk, urbaine et en tant qu'avatar cyberpunk. Sa pratique artistique interroge nos relations avec la technologie et met en lumière les peuples autochtones dans le futur en préambule à la journée d'études Scawanetti, cinéma, art numérique, futurisme et autochtones. Donc la projection a lieu au cinéma Beaumont jeudi le 13 mars à 20h30. La journée, elle, Scawanetti, cinéma, art numérique et futurisme autochtone a lieu vendredi le 14 mars de 10h à 15h. C'est une invitation de la professeure Marie-Josée Saint-Pierre. Il s'agit en fait d'une journée qui aura lieu au pavillon Louis-Jacques Cazot de l'Université Laval. C'est en fait organisé par l'École de design. Donc, dès 10h, c'est un mot d'ouverture. À 10h15, on propose une activité qui s'appelle Activer l'île Aptec. C'est un atelier participatif sur l'Aboriginal Territories in Cyberspace. Dès 11h30, il y aura table ronde des chercheuses autour de l'œuvre de Scawanetti qui sera animée par Marie-Ève Bradette de l'Université Laval. On y invite et on y entend Gina Cortopassi. Sur la pratique du récit et de l'espoir dans Time Travel ETM, étude de la rencontre entre Karen Kawak I et Kateri Tekawita. Il y a Mojane Bezadi, qui est conservatrice au Musée d'art contemporain de Montréal, et elle nous présente Régalia Cyberpunk, mode, identité et futurité dans l'œuvre de Scawinati. Et enfin, on entend Caroline Nepton, hôte, professeure régulière au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal et membre de la communauté Innu de Mastéyache. Elle nous parle transformation et résistance des savoirs autochtones à l'ère numérique. S'ensuit une pause dîner et ensuite à 14h, le visionnement commenté des œuvres Welcome to the Garden et A Day in the Life of Two Sisters de Scawinati. Toujours ce vendredi 14 mars, mais cette fois en soirée, on nous invite encore une fois à la Charpente des Fauves à partir de 18h pour le vernissage de Tête de l'art qui présente Douleur. Douleur est un projet de sensibilisation sur la santé mentale. La ligne directrice, parler du trash avec du doux. À travers de courtes vidéos dynamiques de moins d'une minute, nous abordons avec délicatesse des sujets tels que la dépression, les idées suicidaires, la dissociation, la charge mentale, l'anxiété financière et le burn-out. En utilisant des métaphores visuelles et des analogies douces, nous offrons une expérience immersive et accessible au public. L'objectif est d'élargir la conversation autour de la santé mentale en suscitant la réflexion et l'empathie. Ce projet collectif de sensibilisation vise à contribuer à une meilleure compréhension des défis que rencontrent les jeunes du Québec en matière de santé mentale. Toujours ce vendredi, les étudiantes à la maîtrise en arts visuels nous invitent au roulement à billes à 19h pour la soirée de travers, un événement dans le cadre du Mars de la maîtrise. La soirée de travers regroupera des œuvres de Sonia Plourde, Léane Lefebvre, John John, Maxime Sauvage, Sama Saïdi, Phil Després. Il s'agit d'installations, de vidéos, de performances et de plus encore. C'est ainsi que se termine cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée par Mathilde Harvey-Morin et moi, Christelle Tremblay, sur les ondes de CKRL 89.1. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur vos plateformes préférées. Un grand merci à nos invités Audrey Caro et Myriam Leland qui nous ont partagé de super chroniques. Et on se laisse sur une dernière piste de Alabaster de Plume qui s'intitule « A Paperman ».